journal, Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Jusqu'à quel point le Covid peut-il abîmer notre cerveau? Des chercheurs européens viennent de prouver que le virus s'en prenait aussi à l'irrigation de cet organe, avec d'éventuelles conséquences à long terme. On va tout vous expliquer. Les flux migratoires au menu du Conseil européen aujourd'hui, avec la Biélorussie dans le viseur des 27, Minsk accusé d'instrumentaliser les migrants pour se venger des sanctions européennes. Nous serons à Bruxelles. Dans ce journal aussi, l'UFC Que Choisir pas convaincu par le coup de pouce annoncé par Jean Castex face à l'inflation. Le réseau social TikTok, nouvelle stratégie de com des candidats à la présidentielle. Puis vous ferez connaissance avec les nouvelles joueuses de l'équipe de France féminine de foot.
Et à 7h45, le débat éco, Thomas Piketty, Dominique Seux aujourd'hui sur les nouvelles mesures du gouvernement pour contrer la flambée des prix du carburant. On avait eu des indices, Alexis, au début de la pandémie. C'est désormais confirmé. Le Covid peut aussi s'attaquer au cerveau.
Perte de goût ou d'odorat, voire dépression. Ces symptômes déroutants sont connus depuis longtemps. Beaucoup des malades du Covid en ont souffert. Mais les conséquences neurologiques du virus ne s'arrêtent pas là, selon des chercheurs européens. Dans une étude publiée par une revue scientifique de référence, ils viennent de prouver que le Covid avait un effet sur l'irrigation du cerveau. Avec quelles conséquences? À long terme, les explications sont signées Hélène Chevalier.
Les chercheurs ont analysé les cerveaux de 17 personnes décédées des suites de la Covid-19 et ils ont observé que le virus s'était attaqué aux cellules qui forment la barrière hémato-encéphalique, barrière qui protège le cerveau. Vincent Prévost a dirigé la partie française de cette étude. Il est directeur de recherche dans le centre de recherche de Lille, neurosciences et cognition de l'INSERM.
Cela va créer des vaisseaux fantômes. Les neurones et les cellules qui sont irriguées d'habitude par ce vaisseau-là ne vont plus avoir leur apport en nutriments énergétiques tels que le glucose ou l'oxygène et du coup, elles vont bien moins fonctionner, voire souffrir.
Selon les chercheurs, ces vaisseaux sanguins fantômes pourraient apparaître également dans le cerveau de cas moins graves. Dans cette étude, ils ont en effet été retrouvés chez des hamsters qui, eux, ne développent que des formes légères.
Ça pose souci dans le sens où ça a peut-être altéré la fonction de certaines régions du cerveau pendant les premiers jours d'infection. Et ça va peut-être prédisposer l'individu à développer plus tard des problèmes neurologiques, comme la dépression par exemple, voire prédisposer les gens à développer des maladies neurodégénératives bien plus tard dans la vie, telles que Alzheimer ou Parkinson.
Avant de faire paniquer les quelques 7 millions de Français infectés, les chercheurs précisent qu'il ne s'agit que d'hypothèses. Il faudra encore beaucoup d'études pour mesurer l'impact réel du virus sur le cerveau.
Oui, donc en attendant, pas la peine d'angoisser inutilement. Dossier signé Hélène Chevalier. Le Covid plus la grippe, alliance redoutable que les autorités sanitaires veulent à tout prix éviter cet hiver. Alors avec 4 jours d'avance sur le calendrier prévu, la campagne de vaccination contre la grippe est lancée dès aujourd'hui chez le médecin, en pharmacie pour les publics prioritaires, à savoir les plus de 65 ans, les femmes enceintes ou encore les soignants. 10 millions de doses sont d'ores et déjà disponibles, un des stocks en hausse de 18%. Le ministère de la Santé incite les Français concernés à faire d'une pierre deux coups le vaccin antigrippal et la troisième dose de vaccin contre le Covid en même temps. Pour la 7e fois cette année, les sages-femmes appelées à la grève ce week-end et jusqu'à lundi. Leur colère ne retombe pas, elles réclament toujours de meilleurs salaires et surtout un meilleur statut.
Il est 7h34, deuxième jour du Conseil européen à Bruxelles.
Les 27 se penchent aujourd'hui sur les flux migratoires, c'était à l'ordre du jour du sommet depuis longtemps. Mais cela prend une autre dimension ces dernières heures avec la crise qui couve entre la Pologne et la Biélorussie. Marie-Pierre Véraud nous explique.
Plus que jamais, la protection des frontières extérieures de l'Union sera en tête des priorités des 27 lorsqu'ils parleront migration ce matin. Pas une voix ne devrait manquer pour condamner la Biélorussie qui instrumentalise les migrants en les expédiant vers la Pologne et donc l'Union européenne. Une situation tragique aux frontières de l'Europe. La Pologne les refoule, ce qui est illégal, contraire au droit de l'asile. Plusieurs migrants coincés entre les deux pays auraient succombé au froid notamment et ces renvois se multiplient sur d'autres frontières de l'Union. En Grèce, en Croatie. Mais ce n'est pas le sujet à Bruxelles. Ce qui va animer surtout les dirigeants européens, ce sont les partenariats avec les pays d'origine et de transit. En clair, comment empêcher les départs, multiplier les retours, lutter contre les filières de passeurs. 8 pays sont jugés prioritaires, parmi lesquels l'Irak, l'Afghanistan, la Tunisie ou encore la Bosnie-Herzégovine. Les 27 veulent que la Commission mette enfin en œuvre ses plans d'action. Leur est à externaliser encore plus la politique migratoire de l'Union, notamment la gestion de l'asile. Des financements sont prévus pour cela. Bruxelles, Gilles Gallinaro, Marie-Pierre Véraud, France Inter.
Aux États-Unis, le tournage d'un western vire au drame cette nuit. L'acteur Alec Baldwin a tué par balle la directrice de la photographie et blessé grièvement le réalisateur du film dans lequel il jouait. La piste accidentelle est privilégiée à ce stade. Baldwin a utilisé une arme prévue pour le tournage de ce long métrage réalisé en ce moment au Nouveau-Mexique. Nous serons en direct de Los Angeles avec les derniers éléments de l'enquête dans le journal de 8 heures. En France, ni une baisse des taxes, ni vraiment un chèque carburant. Après des jours de tergiversation, le gouvernement opte pour une troisième voie, une indemnité inflation pour tous les Français touchant moins de 2000 euros net par mois, qu'ils aient une voiture ou pas. Car pour le Premier ministre hier soir sur TF1, les hausses de prix ne concernent pas que l'essence. Cet automne, 38 millions de Français vont donc recevoir une prime de 100 euros. Fin décembre pour les salariés, entre janvier et février pour les chômeurs, indépendants ou encore retraités. Mais pour l'UFC Que Choisir, l'association de consommateurs, ce n'est vraiment pas la solution idéale. Son président Alain Bazot.
Il a proposé a beaucoup de défauts. Ça n'est pas immédiat, ça n'est pas ciblé, ça n'est pas équitable. Pas ciblé, ça c'est le reproche le plus important, c'est que c'est tellement simple de donner 100 euros à tout le monde, on ne tient pas compte de la dépense, de si on roule et si on roule pas. Alors, tant mieux pour ceux qui roulent pas, du coup ils auront 100 euros, et puis il y en a beaucoup pour qui 100 euros, ça va pas du tout faire le bon. La solution idéale, ça aurait été de mettre fin à l'aberration fiscale déjà, qui est mettre une TVA sur des taxes. Rien que sur le carburant, c'est 4,6 milliards, c'est 13 centimes par litre. Donc le gouvernement aurait dû, par souci de justice fiscale et d'efficacité sur le niveau des prix, il aurait dû utiliser ce levier.
Alain Bazot de l'UFC Que Choisir, cette prime coûtera près de 4 milliards d'euros aux finances publiques. Le Premier ministre a aussi annoncé hier soir la prolongation du gel des prix du gaz jusqu'à la fin 2022. Et c'est la bonne vieille télévision que Jean Castex a choisie pour faire ses annonces, pas un réseau social. Le locataire de Matignon n'a par exemple pas encore de compte TikTok, contrairement à Emmanuel Macron et à plusieurs candidats à la présidentielle. En vue de l'élection, certains se lancent sur le réseau social favori des plus jeunes, qui sont aussi de potentiels électeurs. Mais encore faut-il en maîtriser les codes, Noémie Lair.
Celui qui règne dans le domaine, c'est Jean-Luc Mélenchon. Vidéo courte, musique entraînante, humour, mots-clés, tout y est.
Santé.
Et résultat, 495 000 abonnés sur son compte. Le chef de file de la France Insoumise est le candidat qui maîtrise le mieux sa communication sur les réseaux sociaux.
Bonjour à toutes et tous.
Lui a plus d'abonnés, 2,8 millions pour Emmanuel Macron, mais son compte ne maîtrise pas l'intégralité des codes de TikTok.
Depuis le début de l'été, nous entendons beaucoup parler de la quatrième vague.
Se filmer face caméra, en polo ou en t-shirt ne fait pas tout. Certaines vidéos durent plus d'une minute sans valeur ajoutée, ni texte, ni musique.
Ah, quand il est avec les Kurdes, il est formidable, il les trouve formidables.
Comme Emmanuel Macron, Éric Zemmour n'est pas officiellement candidat, mais il est très actif sur tous les réseaux sociaux. 66 000 abonnés sur TikTok, 117 vidéos publiées depuis avril dernier, en grande majorité des extraits de ses interviews.
Avec Monsieur Bernard-Henri Lévy, c'est simple, il n'y a de bon nationalisme que non français.
Un fonctionnement plus ou moins efficace, puisque certaines tirent en longueur. La dernière arrivée sur TikTok, c'est Marine Le Pen, et à défaut de maîtriser l'ensemble de ses codes, elle en a au moins saisi l'intérêt majeur.
Je sais que TikTok, c'est les jeunes, et ça tombe bien parce que j'ai beaucoup de propositions à vous faire.
La candidate du Rassemblement National compte déjà 219 000 abonnés.
Et vous retrouvez ce dossier complet illustré en vidéo TikTok sur franceinter.fr. Il était déjà poursuivi dans l'enquête sur l'enlèvement d'une fillette ce printemps. Rémi Daillet est en garde à vue depuis mardi dans une autre affaire, on l'apprend ce matin. Des projets de coup d'État et d'action violente en lien avec un groupuscule d'ultra-droite. Il est entendu, tout comme sa secrétaire, dans les locaux de la DGSI, les précisions de David Di Giacomo.
Figure des milieux complotistes, Rémi Daillet est soupçonné d'être lié aux membres du groupuscule Honneur et Nation. Ce groupuscule néo-nazi évoquait des projets d'attaque contre une loge maçonnique en Moselle ou encore contre des centres de vaccination, avec la volonté, selon une source proche de l'enquête, de renverser les institutions. Déjà 12 suspects ont été mis en examen dans cette affaire depuis le mois de mai dernier, et désormais, les enquêteurs s'intéressent au rôle joué par le complotiste Rémi Daillet considéré comme le cerveau de ses différents projets d'attentat. De son côté, son avocat affirme que son client nie tout lien avec ce groupuscule d'ultra-droite. Il assure que Rémi Daillet appelait à un renversement pacifique et non pas au terrorisme.
Ils sont soupçonnés d'avoir écumé les sites archéologiques corses pendant des années pour y voler des pièces de monnaie, des bijoux vieux de plus de 2000 ans. 7 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue sur l'île, selon nos confrères de France Info. Au total, près d'un millier d'objets archéologiques ont été pillés dans le nord de la Corse, notamment à l'aide de détecteurs de métaux ultra sophistiqués.
Et pour finir, Alexis, les nouveaux visages de l'équipe de France féminine de foot.
Les Bleus ES de retour ce soir en match qualificatif pour le Mondial 2023. Les joueuses de Corinne Diacre reçoivent l'Estonie. Une équipe fortement renouvelée. La jeunesse en force, Marine Clette.
Dans la liste des 24, elles sont 10 à faire leur début en équipe de France avec moins de 10 sélections. Parmi elles, Naomi Feller, la joueuse de Reims à le sourire. Elle est appelée pour la première fois à seulement 19 ans.
Je suis très très fière et très honorée de faire partie de cette liste. L'équipe de France, c'est la fierté du pays. C'est quelque chose de grand, bah un rêve d'enfant qui est réalisé.
Dans le groupe, réuni à Clairefontaine, il y a aussi Awa Sissoko. La défenseuse vit son retour avec les Bleus après presque 3 ans d'absence et l'arrivée de cette nouvelle génération ne lui fait pas peur.
Mais il y a des plus jeunes que moi qui arrivent avec des talents de fou. Elles sont vraiment fortes et tout. Et ça met un peu la pression. Tu te dis, oh, ça chauffe là, ça chauffe. Mais toute l'année, on bosse pour. Et on bosse aussi pour porter ce maillot avec cet écusson.
Deux jeunes joueuses qui sont parfois peu expérimentées, notamment en défense, mais rien d'alarmant pour la sélectionneuse Corinne Diacre.
Aujourd'hui, effectivement, oui, certaines joueuses manquent d'expérience. Maintenant, si on ne leur donne pas du temps de jeu, n'acquériront jamais d'expérience. Donc c'est peut-être aussi le bon moment de lancer quelques jeunes. Moi, je suis pour ça. Il faut faire confiance. Je ne suis pas inquiète.
Un nouvel effectif et une nouvelle capitaine. Wendy Renard étant blessée, le brassard sera mis autour du bras de l'une des vice-capitaines. Mais laquelle ? Réponse ce soir à 21h.
France-Estonie, c'est donc ce soir à Créteil, chez les hommes en Ligue Europa. 3e victoire d'affilée pour l'OL. 4-3 face au Sparta Prague hier soir. En revanche, Marseille enchaîne un 3e nul contre la Lazio de Rome.
Merci Alexis Morel. L'édito politique est à suivre sur Inter.